cruzamento da Europa.
Раскруча Европы.
Ставродромы της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Affaibli économiquement par les prix bas du pétrole et les sanctions européennes, la Russie continue de se rêver en grande puissance. Si en Ukraine et en Syrie, la Russie est de plus en plus active en termes de projection militaire, elle reste paralysée en matière économique. Les réformes successives restent un échec total et le pays est en récession. À la télévision, il n'est question que de victoire et de gloire, mais le frigo des Russes est de plus en plus vide. Pourtant, la propagande télévisée aidant, la popularité de Vladimir Poutine reste très forte, car il est pour les Russes l'homme du retour de la Grande Russie sur la scène internationale. Alors Vladimir Poutine, un homme fort à la tête d'un État faible, nos invités vont nous le dire, je vous les présente. Galia Kerman, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et écrivaine, votre dernier livre s'appelle Traverser Tchernobyl, il est paru aux éditions Premier Parallèle. Alors là évidemment on parle de l'Ukraine et de ce drame de Tchernobyl, on s'éloigne un peu de la Russie, quoique. Florent Parmentier, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Vous êtes enseignant à Sciences Po et à HEC, les hautes études commerciales. Et on rejoint, non pas à Valdaï, mais non loin de Valdaï, Arnaud Dubien. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, et le directeur à Moscou de l'Observatoire Franco-Russe. Alors je disais que vous étiez au club de Valdaï. Qu'est-ce que c'est que ce club de Valdaï où vous êtes en ce moment? En quelques mots, bien sûr.
C'est un cercle de réflexion qui réunit plusieurs dizaines de spécialistes de la Russie, de penseurs sur les questions globales et bien des sessions d'une semaine au cours desquelles nous avons également l'occasion de nous entretenir avec de hauts responsables russes, dont le président Poutine.
Est-ce qu'on peut dire que c'est le Davos russe ou c'est un peu exagéré?
En quelque sorte. Disons que le Davos russe serait plutôt le forum économique de Saint-Pétersbourg. Valdaï, on parle plus de politique étrangère que d'économie.
Merci, on vous rejoint dans un instant, Arnaud Dubien.
Je dirais que c'est de la rhétorique politique qui n'a pas beaucoup de sens et ne tient pas compte des réalités en Syrie. Et je vais vous dire pourquoi. Je suis profondément convaincu que ce sont nos partenaires occidentaux, et en premier lieu, bien sûr, les États-Unis, qui sont responsables de la situation qui s'est formée dans la région en général, et en Syrie en particulier. Souvenons-nous de l'enthousiasme délirant au début du printemps arabe. Qu'en est-il maintenant? Où est donc cet optimisme? Par quoi tout cela s'est-il soldé? Rappelons-nous ce qu'était la Libye et l'Irak avant que les forces de nos divers partenaires occidentaux n'aient détruit ces États, ou du moins anéanti leurs structures étatiques.
Réaction de Vladimir Poutine lors d'un récent point de presse lorsqu'on accuse la Russie de commettre des crimes de guerre en bombardant sans retenue les populations civiles à Alep en Russie. C'est un argumentaire bien rodé, Florent Parmentier.
Oui, on a toujours, de la part de la diplomatie russe, l'idée du deux poids, deux mesures. Autrement dit, ce que vous me reprochez à Alep, vous l'avez fait ailleurs en bombardant hier l'Irak, en démembrant la Syrie, en démembrant la Libye. Et finalement, ce que je fais, c'est la même chose. Donc pourquoi me reprochez-vous quelque chose de très spécifique? C'est vraiment l'argument du deux poids, deux mesures, en fait, qui est important et qu'on revoit surgir encore tout à fait récemment à propos de Mossoul et des opérations alliées à Mossoul, où la réflexion de dirigeants russes est d'expliquer que ce qui se passe à Mossoul est de l'ordre du crime de guerre. Et on voit la même rhétorique qui est appliquée en décalque.
En confisquant la Crimée, en intervenant plus ou moins discrètement dans l'est de l'Ukraine, en se rendant maître du jeu en Syrie au prix de bombardements aveugles des populations civiles à Alep, on l'a dit, Vladimir Poutine, a voulu remettre la Russie au centre de la scène internationale. Comment jugez-vous ces initiatives?
Certainement, il y a un projet derrière tout ça. Vladimir Poutine veut que la Russie acquiert la même puissance qu'avait l'Union soviétique, ce qui évidemment n'est pas possible pour diverses raisons, en premier lieu économique, mais aussi la population.
L'URSS était 350 millions d'habitants, la Russie c'est autour de 140, c'est évidemment plus le même pays.
Ce n'est plus le même pays et surtout il n'y a pas de réseau autour comme il y en avait autour de l'Union soviétique, parce que il faut se souvenir que il y avait le pacte de Varsovie, c'est-à-dire toute l'Europe de l'Est a été embrigadée en quelque sorte. Il y avait les sympathisants dans multiples pays du monde, ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde. Il y avait quand même la Chine communiste, le Vietnam, le Cambodge, le Cuba, etc., etc.
C'est-à-dire un réseau d'alliances.
C'était un vrai réseau d'alliances qui, effectivement, s'opposait au bloc soi-disant occidental. Donc, c'était un équilibre mondial. Aujourd'hui, il n'y a rien de tel. Il n'y a même pas de solidarité d'antan entre, disons, les États-Unis et l'Europe. Ce n'est plus le même lien. C'est un lien plus faible, je dirais. Et donc, ce que veut Poutine est un peu chimérique. Et même s'il contrôle maintenant une petite partie de l'Ukraine, le Donbass, donc et qu'il a annexé la Crimée, et même s'il contrôle le ciel syrien, en tout cas en partie, cela ne veut pas dire qu'il a recouvert cette puissance de l'Union soviétique. Donc, je considère qu'il y a une partie de tout ça qui est destinée à l'opinion publique à l'intérieur du pays, parce que ce regain du militarisme, on peut dire, est parallèle à l'affaiblissement économique dont vous avez parlé au début.
Donc, et que l'on va développer, bien évidemment.
Il faut expliquer à la population que le pays est toujours fort, qu'il est entouré d'ennemis, et que donc les difficultés s'expliquent par cette conjoncture.
Arnaud Dubien, est-ce que vous diriez que la Russie est de retour ?
Oui, certainement. En tout cas, les perceptions dominantes à l'extérieur, c'est que la Russie est de nouveau incontournable sur un certain nombre de dossiers importants, et en particulier sur le principal dossier international du moment, qui est la Syrie. Poutine n'a pas créé la crise syrienne, il faut le rappeler. Il s'en sert pour se réintroduire dans le jeu et pour rétablir un dialogue qu'il souhaite d'égal à égal avec les États-Unis. Il y a une vraie obsession américaine à Moscou. Je ne dirais pas, en revanche, que le rêve de Poutine, son ambition, c'est de restaurer l'URSS, ni même la puissance de l'URSS. Mais je pense que Poutine veut que la Russie joue un rôle qui a été le rôle de la Russie, je dirais, avant 1914. Une Russie qui participe à un concert des nations européennes. Hein. Mais pas seulement. Il ne s'agit pas d'une confrontation idéologique, ça a été rappelé, mais je dirais d'antagonisme géopolitique assez classique, qu'on a un petit peu oublié en Europe de l'Ouest, puisque la géopolitique est un petit peu passée de mode dans notre mode de pensée.
Galia Korman, est-ce que vous diriez, vous, que le moteur de Vladimir Poutine aujourd'hui, c'est le nationalisme dans tous ses excès ?
Le nationalisme est une notion très vague, en fait. Je pense qu'il y a deux sortes de nationalisme pour ce qui concerne les Russes. Il y a le nationalisme ethnique russe qui se préoccupe surtout des biens des Russes. Et il y a le nationalisme que je nommerais soviétique ou impérialiste, où c'est surtout en termes de l'empire, de la puissance.
C'est le nationalisme nostalgique.
C'est le nationalisme nostalgique, on peut dire ça comme ça. Et donc c'est celui-là que professe Vladimir Poutine.
Florent Parmentier, ce que dit Vladimir Poutine, c'est qu'avec moi, la Russie redevient une grande Russie. C'est un peu ça l'idée ?
C'est un peu ça l'idée, c'est tout simplement un pouvoir effectivement qui se fonde autour de trois grands types de valeurs, dont le nationalisme, dont les valeurs conservatrices, qui sont également l'une des caractéristiques du régime actuel, et sur l'idée d'autorité de l'État. Les valeurs qui sont défendues par le régime russe sont de cet ordre-là et trouvent un écho, y compris dans certains pays d'Europe de l'Ouest, et pas seulement.
On va évidemment revenir sur l'influence ou non de la Russie en Europe et en Europe de l'Ouest notamment. Alors Arnaud Dubien, on sent bien que la Russie a des ambitions, mais est-ce qu'elle a les moyens de ses ambitions, et notamment sur le plan économique ?
Il y a une constante dans l'histoire russe qu'avait relevé le professeur Georges Sokolov avec son livre La puissance pauvre, c'est un décalage entre l'état de développement intérieur, donc le niveau de l'économie nationale, et les ambitions internationales du pays. C'est une constante, parfois ça conduit à certains décrochages, qui eux-mêmes ouvrent la voie à des réformes. La Russie, historiquement, compense la faiblesse de son économie par d'autres facteurs. L'étendue de son territoire, le fait que la Russie n'est peut-être plus qu'une puissance régionale, mais d'une région qui va de l'Arctique au Moyen-Orient, de la Baltique au Japon, donc c'est une région assez considérable. Il y a l'outil militaire, bien sûr, et il y a aussi, et c'est très important en ce moment, on le voit, une détermination des dirigeants russes à jouer, à être présents. Il y a une volonté politique. Une connaissance de l'histoire aussi. Il fait sans doute peut-être défaut en Occident. Bien, vous avez une Russie dont on peut avoir l'impression qu'elle joue au-dessus de sa catégorie, mais je ne pense pas que les comparaisons entre la Russie d'aujourd'hui et l'URSS de 1984-85 soient pertinentes. La Russie a augmenté, certes, ses dépenses militaires, les proportions ne sont absolument plus les mêmes. La Russie est certes en récession depuis 18 mois, mais la Russie ne s'est pas effondrée, contrairement à ce qu'on lit ou on entend à droite et à gauche. Donc les choses ne sont pas aussi catastrophiques en réalité pour la politique étrangère russe, pour ses ambitions. Il est vrai que beaucoup de gens à Moscou, y compris au sein du pouvoir, estiment qu'il serait temps aujourd'hui d'enclencher une phase de réforme pour remettre la tendance à niveau. Mais je pense que ceux qui estiment que la Russie va devoir renoncer à ses ambitions en Syrie, en Ukraine ou ailleurs parce que l'année prochaine elle fera 0 ou 0,5% de croissance, ces gens-là se trompent. La Russie ne raisonne pas en ces termes.
Florent Parmentier, la Russie est un pays qui, même s'il n'a pas retrouvé le niveau de l'URSS, comme l'explique Arnaud Dubien, sur le plan militaire, a surinvesti. En tout cas, c'est un pays qui est de nouveau capable de réaliser une projection de puissance significative. On l'a vu en Syrie, par exemple.
Oui. Sur la Syrie, effectivement, et je crois que ce qui est plus important sur la Syrie également, c'est la possibilité aujourd'hui de se reposer sur les Iraniens et de pouvoir taper la Syrie depuis l'Iran. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau et qui change un peu les règles du jeu régional. Puis aussi une politique russe qui, dans la région, arrive finalement à parler à beaucoup d'acteurs en essayant de se positionner, c'est-à-dire avoir un partenariat privilégié avec l'Iran, mais ça depuis déjà longtemps, bien avant Vladimir Poutine.
Un des rares partenaires de la Russie, d'ailleurs. Ouais. L'Iran.
Et il faut se souvenir que l'Iran théocratique avait, en 79, plutôt ciblé les États-Unis que l'Union soviétique athéiste comme grand Satan, grand ennemi. Et donc il y a des résiliences de tout cela. Mais la Russie essaie également de parler avec les puissances sunnites de la région. Elle essaie également de maintenir des liens avec Israël, plus ou moins difficiles là aussi, mais fort d'une population, d'une minorité russophone importante au sein de l'État israélien. Donc, incontestablement, voilà, il y a une volonté de jouer un jeu dans lequel ils font le pari que le moment occidental de redistribution des cartes au Moyen-Orient est à un point d'achoppement et que c'est maintenant qu'il faut réinvestir.
Les objectifs, Gadia Kaman, de la Russie en Ukraine et en Syrie, c'est toujours l'idée de revenir sur le devant de la scène ou c'est plus subtil ?
Je crois que la Syrie et l'Ukraine, ce n'est pas exactement le même cas de figure. L'Ukraine, il faut quand même s'en souvenir, c'est aussi le passé russe, en quelque sorte. C'est la Russie qui vient. À ce jour, la plupart des églises ukrainiennes, y compris la fameuse Laure de Kiev, se trouvent sous l'autorité, sous l'égide du patriarcat de Moscou. En quelque sorte, la Russie peut difficilement se permettre de laisser partir l'Ukraine. C'est quelque chose qui est tellement ancré dans les consciences russes que le départ définitif de l'Ukraine, qui bien sûr se profile de plus en plus, est quelque chose d'inconcevable.
Dans l'esprit des Russes, pour ce qui est de la Crimée, c'est encore plus vrai.
Bien entendu, bien que la Russie fût seulement sur l'échelle historique assez brièvement présente en Crimée parce qu'elle l'a conquis vers le milieu du 19e siècle et donc ça ne fait même pas 200 ans de domination russe en Crimée, mais de nouveau ça a été une région très importante. Il y a toutes les légendes qui entourent la ville de Sébastopol notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, je dis légende parce que le rôle qu'a joué la défense de Sébastopol est exagéré, mais en tout cas, c'était un lieu de villégiature des Russes. Il y avait des grands Russes qui ont vécu en Crimée. De nouveau, il y a une partie sentimentale dans tout ça. Et ce sentiment est appuyé par une partie des Ukrainiens. Il faut le reconnaître aussi, notamment à l'est de l'Ukraine, d'où le Donbass. La révolte qui a pu se produire dans le Donbass n'a pas pu se produire ailleurs. Donc, il y a quand même
une réalité.
Une réalité, une adhésion d'une partie de la population ukrainienne à cette alliance avec la Russie. Maintenant, pour la Syrie, c'est autre chose. La Syrie était un pays du parti Baas, où il y a eu lieu la révolution baasiste, de même qu'en Irak. C'était des pays laïcs.
C'est un allié politique. C'était un allié politique de l'URSS.
C'était des alliés politiques de l'URSS, de même que l'Égypte, d'ailleurs. Donc, l'Union soviétique a été très fortement présente dans la région. Elle a soutenu les pays arabes dans l'agression contre Israël pendant toute cette période soviétique. Il suffit de se souvenir des guerres de 1967 et 1973. Donc, l'éviction graduelle de l'Union soviétique, puis de la Russie du Proche-Orient est aussi une gifle. Donc la Russie essaie de reprendre les positions, son ancrage dans cette région, qui est une région stratégique aussi bien pour des questions des matières premières, du pétrole, du gaz, etc., que stratégiquement la présence dans la Méditerranée et le contrôle du carrefour entre l'Asie et l'Europe. Mais il n'y a pas de sentiment là. Il n'y a aucun sentiment. Ça, c'est une pure jeu géostratégique.
On est dans la réelle politique. Arnaud Dubien, il y a un paradoxe. C'est bien que la situation soit difficile en Russie, que le niveau des salaires est baissé, le niveau des retraites est baissé. Vous l'avez dit que le pays ne s'est pas effondré, vous l'avez souligné, Arnaud Dubien. Mais néanmoins, la situation est quand même difficile pour les Russes. Et néanmoins, Vladimir Poutine reste extrêmement populaire. C'est quoi? C'est l'effet Crimée, c'est l'effet de la télé qui est aux ordres et qui est très propagandiste. Comment on peut expliquer d'une manière un peu cohérente, avec un regard occidental, cette popularité de Vladimir Poutine en quelques mots?
Le problème, justement, c'est qu'on projette sur les réalités russes nos modes de pensée. Les Russes nous ressemblent beaucoup, mais ne pensent pas forcément comme nous. En réalité, il y a beaucoup d'explications, mais une qui s'impose. C'est que les Russes, dans leur ensemble, se souviennent très bien d'où ils viennent. Ils se souviennent des années 90 en particulier. Et en dépit des difficultés de ces deux dernières années, le niveau de vie des Russes, le revenu moyen, si on compare entre, si on prend 90, 91, 99 et 2015, bon, le salaire moyen, par exemple, a été multiplié par 10. Hein. Lorsque Vladimir Poutine arrive au Kremlin, le salaire moyen est $62. Bon, aujourd'hui, on est à 600 après l'affaissement du rouble. Donc, certes, les choses ne sont pas brillantes, loin de là, mais les Russes pensent que Poutine porte aussi ce bilan positif au plan économique de leur point de vue. Donc, honnêtement, ça va durer. Est-ce qu'il n'y aura pas une lassitude? Est-ce que les Russes, dans un an, deux ans, trois ans, ne vont pas demander des comptes au pouvoir? Personne ne le sait. Mais aujourd'hui, l'explication majeure de la popularité de Poutine, c'est le souvenir qu'ont les Russes de la Russie des années 90 et de la trajectoire globale de la Russie ces 15 dernières années. Du point de vue de la majorité, cette trajectoire reste positive.
La résilience du peuple russe est importante.
Bien sûr. En France, une récession de 3%, une baisse des salaires réels de 10% conduirait immédiatement à des manifestations, à une situation, je pense, tout à fait ingérable. Ce n'est pas le cas en Russie. Donc il faut se garder, je crois, de projeter nos ressentis sur le ressenti des Russes. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que tout va bien, ce n'est pas le propos. Mais dans les priorités de l'État, dans le vécu des populations, la situation ne se présente certainement pas de la même façon qu'en France ou en Occident.
Et il faut toujours faire la différence. Les Russes nous ressemblent beaucoup, mais ils sont quand même très différents. C'est ce que vous avez dit, Arnaud Dubien.
Oui, ils sont en réalité européens. Ils font partie de la famille européenne au plan civilisationnel, au plan de l'histoire, mais pas au plan politique. En tout cas, pas depuis quelques décennies. Donc effectivement, c'est déroutant de voir des gens qui nous ressemblent tant en apparence penser différemment. Mais c'est peut-être aussi le résultat d'une forme d'européocentrisme ou d'occidentalocentrisme qui, il faut bien le dire, et on n'en a pas forcément conscience, est de moins en moins pertinent pour comprendre le monde.
Et oui, il ne faut pas oublier que la Russie, c'est un pays euro-asiatique.
Absolument, il est d'Europe, mais pas seulement. Et la Russie a toujours revendiqué sa double vocation européenne et asiatique. Elle le fait de plus en plus. Évidemment, le contexte diplomatique très difficile actuellement avec les Européens et les Occidentaux renforce le vecteur asiatique et non européen. C'est vrai, donc il y a un facteur immédiat, conjoncturel, mais c'est une tendance de fond. La Russie ne peut pas négliger son grand voisin qui est la Chine. La Russie ne peut pas négliger la région Asie-Pacifique qui est la plus dynamique au plan économique au monde. Donc la Russie, je pense, d'ici quelques années, les choses évolueront évidemment, se retournera de nouveau vers l'Europe, ce sera une Russie différente, peut-être que l'Europe sera aussi différente, mais de toute façon, la Russie, au cours des années à venir, va de plus en plus s'intéresser à ce qui se passe de l'autre côté. Et à très court terme, je pense que l'on va avoir une immense surprise en Occident lorsque, au mois de décembre, la Russie et le Japon vont probablement normaliser leurs relations.
Arnaud Dubien, on va faire une petite pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps de prendre connaissance des dernières nouvelles de la planète avant de revenir à notre débat. Vladimir Poutine est-il un homme fort à la tête d'un État faible? À tout de suite.
Sept milliards de voisins.
Cruzamento toute Europa.
Rescrucia Europei.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquel,
Guillaume Meunier.
Rebonjour, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Si vous nous rejoignez, nous nous interrogeons. Vladimir Poutine est-il un homme fort à la tête d'un État faible? En tout cas, la Russie, affaiblie économiquement par les bas prix du pétrole et les sanctions européennes, continue de se rêver en grande puissance. Si en Ukraine et en Syrie, Moscou est de plus en plus actif en termes de projection militaire, la Russie reste paralysée en matière économique. Les réformes successives restent un échec total et le pays est en récession. Alors comment la Russie se voit-elle dans le monde? Je vous représente les invités qui ont pris place autour des micros de Carrefour de l'Europe. Galia Kerman, journaliste et écrivaine, son dernier livre « Traverser Tchernobyl » aux éditions Premier Parallèle. Florent Parmentier, enseignant à Sciences Po et à HEC. Et Arnaud Dubien, chercheur à l'IRIS et directeur à Moscou de l'Observatoire franco-russe. Il est en ligne de Russie. Alors avant de reprendre notre débat, je vous propose de faire un détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Gianluffili.
Bonjour Daniel.
Dans le numéro de cette semaine de Courrier International, on peut lire qu'une chronique de Rod Liddell, paru dans le magazine britannique Spectator, à contre-courant de ce que l'on entend habituellement à propos de la Russie. Il estime que les Européens et plus généralement les Occidentaux ont une mauvaise approche à l'égard de la Russie, de Vladimir Poutine, même si ce dernier n'est pas un parangon en matière de démocratie et de droits de l'homme.
Il revient sur l'incident il y a quelques semaines où le ministre des Affaires étrangères, au moment du début de le bombardement russe d'Alep, que Boris Johnson, le ministre des Affaires étrangères, il a invité les gens d'aller manifester devant l'ambassade russe. Et voilà, Rod Liddell est assez outragé par ces espèces de langage qu'il considère belliqueux envers le président. Il explique aussi que tous les jours dans les tabloïds, nous lisons qu'il y a des avions de chasse russes qui sont au-dessus des côtes britanniques, anglaise. Rod Liddell explique que voilà, mais ça fait 70 ans que c'est comme ça et ce n'est pas comme si les avions américains, les avions britanniques ne sont pas en train de faire la même chose côté à la côte russe. Il explique aussi une espèce de paradoxe parce qu'au moment qu'on est en train de condamner l'intervention russe en Syrie ou Alep, eh bien les bombardiers de la coalition ont attaqué Mossoul contre Daesh. Il dit qu'il est fort improbable que nos bombardiers à nous, les Occidentaux, n'atteignent que des djihadistes de Daesh, que aussi il va y avoir normalement des victimes collatérales. Donc on peut condamner bien sûr ce qui se passe en Syrie, mais l'Occident n'est pas complètement pur dans cette situation. Alors, il explique qu'en fait, la politique occidentale en Moyen-Orient est très incohérente. Depuis l'invasion de l'Irak, le soutien pour le printemps arabe, l'intervention catastrophique en Libye, parce que à chaque fois que l'Occident intervient, nous avons cette idée que nous pouvons mettre en place des gens comme nous, c'est-à-dire des gentils gens modérés. Or, ce n'est pas le cas, et voilà, le grand flou dans la politique occidentale, c'est que nous luttons pour des gens qui n'existent pas, selon l'auteur, bien sûr. Il explique aussi qu'il y a un problème avec Poutine, c'est notre création, estime-t-il, que nous ne pouvons pas divestir un pays de son empire. Alors, il y aura une espèce de contre-coup, une espèce de nostalgie pour la belle époque de l'URSS. Donc, c'est pour cette raison qu'il y a un homme comme Poutine qui arrive. Il regrette, Rod Liddell, que dans les années 90, nous n'avons pas fait la chose qui lui semble le plus logique, d'avoir invité les Russes à rejoindre l'OTAN.
Merci Jerry Philly, c'est un article à lire dans le dernier numéro de Courrier International, celui qui est en ce moment dans les kiosques. Arnaud Dubien, est-ce que les Américains et dans une moindre mesure les Européens, est-ce qu'ils ont raté l'occasion d'arrimer la Russie au monde occidental dans les années 90 en fermant la porte de l'OTAN à la Russie?
Il y a eu plusieurs occasions manquées en réalité. Il y a eu une occasion manquée en 91-92, il y a eu une deuxième occasion manquée dans la foulée du 11 septembre 2001, et sans doute une autre sous Medvedev. Au cours des années 90, début des années 90, il y a effectivement une Russie sous Boris Yeltsin, au tout début, encore une fois, qui se voit comme faisant partie intégrante d'un Occident élargi. C'était aussi un petit peu dans le prolongement de l'idée de maison commune européenne promue par Gorbatchev et François Mitterrand. Alors cette logique n'a pas pu se matérialiser, ce n'était pas simple en réalité, mais il est vrai qu'une autre logique a prévalu, poussée par l'administration Clinton 1, une logique d'élargissement de l'OTAN, puis qui s'est doublée d'une logique d'élargissement de l'Union européenne. Alors le deuxième rendez-vous manqué, c'est après le 11 septembre. Je rappelle que Vladimir Poutine est le premier dirigeant étranger a exprimé son soutien, un soutien très concret à George Bush. Que se passe-t-il à ce moment-là? Montée de l'unilatérisme américain, dénonciation du traité ABM et quelques mois plus tard la campagne en Irak, et donc Poutine a une impression de ne pas avoir été pris au sérieux. Et il y a deux discours qui permettent d'évaluer le changement de discours de Vladimir Poutine. Poutine n'a pas eu une présidence linéaire. Hein. Poutine, au début, est en réalité lui aussi pro-occidental. Il souhaite arrimer la Russie à l'Occident, et on a ces thèses-là dans le discours, par exemple, du 24 septembre 2001, Bundestag, un discours prononcé partiellement en allemand, d'ailleurs, où il revendique l'appartenance de la Russie à l'Europe, historiquement et pour l'avenir. Et puis vous avez, toujours en Allemagne, en 2007, un autre discours, discours de Munich, une virulence extrême contre les États-Unis, qui annonce en réalité l'atmosphère qui prévaut depuis. Je crois qu'il y a eu une immense désillusion chez les Russes et chez Poutine en particulier vis-à-vis de l'Occident. Encore une fois, on peut ne pas être d'accord avec ça, mais il faut bien mesurer l'état d'esprit des dirigeants russes et de Poutine en particulier, d'autant plus que Poutine a sans doute vocation à être encore au pouvoir après que le président américain qui serait élu le 8 novembre quitte la Maison Blanche.
Ça, on va évidemment y revenir. Vladimir Poutine est là pour probablement très très longtemps. Gagnère Kloman, aujourd'hui, les Russes se sentent isolés, rejetés. Il y a une part d'erreur des Occidentaux dans cette situation.
Je crois que la Russie n'aurait jamais pu rejoindre l'OTAN, tout simplement parce que même quand Boris Yeltsin le voulait, la Russie aurait dû accomplir des réformes énormes que cette appartenance demandait. C'est vrai de tous les pays. Et puis c'était en quelque sorte aussi un très gros morceau à avaler pour l'OTAN. Ça aurait complètement bousculé la structure de l'organisation, la rendant peu opérationnel, voire pas du tout. Donc ça, c'était peut-être un fantasme de Boris Yeltsin, mais c'est un fantasme du même ordre que le désir de la Turquie d'appartenir à l'Union européenne. Maintenant, il faut dire aussi que l'élargissement de l'OTAN, comment pouvait-on ne pas accepter la demande très forte des pays de l'Europe de l'Est d'appartenir à l'OTAN? Comment peut-on refuser? Quelle est la base du refus? Il faut dire que personne n'a embrigadé ces pays. Ce sont ces pays qui ont très fortement, y compris les pays baltes, voulu appartenir à l'OTAN, justement en souvenir du passé commun, en quelque sorte, avec l'Union soviétique.
Et du passé douloureux, bien évidemment.
Passé très douloureux. Donc, je ne vois pas qu'il y ait une énorme faute, peut-être des maladresses quelconques, des Occidentaux. C'était un développement, je dirais, naturel des choses. Et maintenant, si on s'arrête devant la demande de l'adhésion de l'Ukraine, aussi bien à l'OTAN qu'à l'Union européenne, c'est pour les mêmes raisons qui, jadis, n'ont pas permis le rapprochement suffisant avec la Russie. C'est que ce pays, malgré ses aspirations, est encore trop loin du terreau commun européen. Il a encore beaucoup de chemin à faire. Mais quand ce chemin sera parcouru, on n'aura pas le choix, même s'il y a des objections, à le recevoir, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans.
C'est aussi le cas de la Géorgie, qui est une situation très, très voisine. Florent Parmentier, est-ce qu'aujourd'hui, pour les Russes, l'OTAN, c'est l'ennemi?
Alors, il y a plusieurs types d'ennemis. Je crois que si on regarde la carte de la Russie, il y a des incertitudes à l'ouest avec l'OTAN, mais il y en a beaucoup plus au sud. Ils sont beaucoup plus inquiets de ce qui se passe au Moyen-Orient et des implications que ça peut avoir sur le Caucase Nord. Ils sont également inquiets par rapport à l'Extrême-Orient, cette grande masse vide à côté
qu'est la Sibérie.
Qu'est la Sibérie à côté d'un pouvoir triomphant important qu'est la Chine.
Et très peuplé.
Également. Et donc, on voit bien voilà qu'on cherche malgré tout l'OTAN comme l'adversaire idéal. Mais comme au Sénat américain, on trouve en la Russie l'adversaire idéal, ce qui permet d'avoir un certain nombre de financements d'armement qui sont toujours prêts à être dépensés parce qu'il y a la menace russe. Quand bien même, si on regarde dans les faits, le pourcentage de dépenses du budget russe dans le monde par rapport aux dépenses américaines en matière, on voit qu'on peut dormir sur les deux oreilles. Et évidemment, voilà, on a pour l'instant, je crois, une situation qui est la suivante. Il y a une conflictualité structurelle entre l'OTAN et la Russie. Il peut y avoir des accords sectoriels, ça c'est un point qu'il faut relever aussi, et il y aura des guerres locales, ce qu'on a vu en Géorgie, ce qu'on a vu en Ukraine. Quand je dis guerre locale, ça ne veut pas dire que ça ne nous concerne pas, bien au contraire, mais ce n'est pas une conflagration générale, et ça n'a pas forcément vocation.
Alors cela dit, quand on lit un peu les médias russes, quand on regarde un peu la télévision russe, on a l'impression, écoutez, alors faut bien voir que les médias russes sont quand même sous contrôle du pouvoir politique russe et du Kremlin, on a l'impression que la Troisième Guerre mondiale, elle a déjà commencé.
Je voudrais peut-être revenir sur l'un des points qu'on a mentionné, qui était la question de l'isolement et peut-être plus du redéploiement de la Russie, redéploiement de sa puissance. L'isolement, effectivement, si on se souvient du 9 mai 2015, qui célébrait les 70 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, car la fin de la Seconde Guerre mondiale est fêtée le 9 mai, non le 8 mai, en Russie. Ce qu'on voyait vu d'Europe, c'est qu'il n'y a pas un Européen ou très peu d'Européens qui ont fait le déplacement le jour J, etc., en tribune officielle. Mais vous avez quand même la Chine qui est représentée au plus haut niveau, vous avez l'Inde qui est représentée au plus haut niveau, et vous avez un certain nombre de grands États qui sont représentés et qui, collectivement, pèsent démographiquement bien plus lourd que tous les États de l'Union européenne. C'est quelque chose aussi qu'il faut rappeler. Ça m'amène à l'idée de redéploiement, qui est qu'effectivement, la Russie est isolée en Europe, elle est isolée aux États-Unis. Les perspectives, d'ailleurs, ne sont pas réjouissantes de ce que nous pouvons faire ensemble. Mais la Russie a essayé de s'inventer de nouveau, avec toutes leurs limites, de nouvelles alliances à travers le BRICS. C'est quelque chose d'important, qui est de dire, voilà, nous faisons partie des États émergents, quand bien même la Russie n'est plus un État émergent. Et la crise actuelle économique qu'elle subit en témoigne. Elle n'a pas le même potentiel de croissance que peut avoir l'Inde, que peut avoir la Chine. Et puis, il y a également l'organisation de la coopération de Shanghai. Les deux cumulés sont une forme de redéploiement. C'est un peu le vecteur asiatique, tel que le décrivait Arnaud Dubien.
Arnaud Dubien, est-ce que la Russie se voit comme le leader des BRICS? Alors les BRICS, il faut rappeler que c'est l'ensemble des pays émergents, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Est-ce que c'est plutôt un forum d'envergure économique plutôt que politique? Sauf peut-être pour la Russie, est-ce que la Russie se voit un peu comme le leader politique des BRICS? Ou est-ce que la Russie aimerait être ce leader politique?
Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que la Russie prétend être le leader des BRICS. Elle prétend être un animateur de ce groupe qui, rappelons-le, est né de l'imagination d'un économiste anglo-saxon. Et finalement, ce groupe a pris corps. Des coopérations se mettent en place. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui vous diront que ces pays, certains entre eux, ce n'est pas beaucoup. C'est le cas de la Chine et de l'Inde. C'est un groupe artificiel, que les convergences sont finalement assez limitées. Oui et non. En réalité, c'est l'illustration d'un ordre non occidental qui émerge, et la Russie entend y participer. Alors, les BRICS en eux-mêmes, encore une fois, ce n'est pas une organisation internationale très formalisée, mais il y a des choses qui se mettent en place, et surtout, c'est un symbole puissant d'un réagencement du monde dans lesquels les Occidentaux ne sont plus en position dominante.
La vocation de la Russie aujourd'hui, son positionnement, c'est de dire on est le leader, on est l'incarnation de la désoccidentalisation du monde, ce monde occidental si décadent où le mariage gay, par exemple, est de plus en plus admis à peu près partout. Est-ce que la Russie aujourd'hui se fait le symbole du traditionalisme, du conservatisme? Est-ce que l'idéologie de la Russie, c'est ça aujourd'hui?
Oui, partiellement, de notre côté, il ne faut pas non plus exagérer les choses. Ce qui se passe aujourd'hui en Russie, dans le discours politique étrangère et dans l'articulation avec la tradition, ce qui est présenté comme une tradition, ça rappelle assez furieusement les années 1830, Nicolas Ier. Bon, la Russie, aujourd'hui, a de mauvaises relations avec l'Europe et les États-Unis. Ce n'est pas la première fois. Je pense que d'ici quelques mois, ou plus vraisemblablement quelques années, les choses évolueront. Mais il est vrai que dans cette logique-là, dans ce moment elle vit aujourd'hui, elle cherche à mettre l'accent sur des alliances alternatives, sur des rapprochements avec d'autres zones, d'autant plus que dans sa vision, et je ne suis pas sûr qu'elle ait totalement tort de ce point de vue, l'Occident pèse moins et pèsera moins à l'avenir. Alors ça ne veut pas dire que les États-Unis ne seront plus les premières puissances militaires et géopolitiques mondiales, ça ne veut pas dire que l'Union européenne va disparaître, mais les Russes font l'analyse, une analyse sur laquelle le poids relatif de l'Occident dans le monde va décroître, et que la Russie a tout intérêt à se rapprocher avec d'autres ensembles émergents ou réémergents. La Chine, bien sûr, l'Inde, Florent Parmentier a juste titre à évoquer ce vecteur eurasien avec le groupe de coopération de Shanghai qui a vocation à s'élargir au sous-continent indien. Il y a là quelque chose d'important. La Russie a pris acte de ce que une intégration avec l'Occident, que ce projet-là n'est plus réaliste, et donc elle doit avoir d'autres alliances, des alliances commerciales en particulier. Et ça l'a conduit à se rapprocher, à promouvoir son projet d'union douanière, mais surtout à articuler ce projet-là avec les projets chinois de route de la soie. Et ça, c'est majeur. Je ne suis pas sûr qu'on en prenne vraiment la mesure en Occident. Je pense qu'en Occident, on surestime les antagonismes russo-chinois. J'observe cependant que depuis quelques semaines, des stratèges américains, et pas n'importe lesquels, les Kissinger, les Brzezinski, tirent la sonnette d'alarme sur le fait que le rapprochement russo-chinois se matérialise. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une alliance militaire, ça ne veut pas dire que immédiatement plus un pour nous, mais il y a un mouvement tectonique important qui s'est amorcé.
Galia Kloman, est-ce que vous diriez que la Russie est un pays qui se replie sur lui-même, ou au contraire qui s'ouvre sur d'autres horizons un peu plus nouveaux?
Je crois que la Russie d'aujourd'hui, et ça c'est une chose essentielle, a plus ou moins adopté les valeurs traditionnelles de l'Empire russe, qui sont des valeurs extrêmement réactionnaire. Donc c'est un État, on peut dire, autocratique aujourd'hui, pas peut-être dictatorial, mais en tout cas autocratique.
Une démocrature, comme on dit.
C'est même plus une démocrature. C'est aussi un État très populiste, je dirais, un régime très populiste, et cela est démontré justement par la popularité de Vladimir Poutine. Selon le dernier sondage, ça atteint de nouveau 84%.
Ça fait rêver bien des dirigeants en Europe occidentale.
Mais c'est absolument impossible dans un régime démocratique. Aucun régime démocratique ne peut avoir ce type de soutien. Par contre, le soutien des Russes et la confiance en les institutions de l'État et le soutien de cet État est beaucoup plus faible. Ce qui veut dire que même le Parlement, la Douma, est une sorte de décoration. Il est là pour valider les décisions du gouvernement et, in fine, de Vladimir Poutine. Ce n'est pas seulement un État autocratique, mais c'est aussi, comme je viens de dire, un État qui soutient les valeurs traditionnelles, qui s'appuie sur l'orthodoxie et sur d'autres religions traditionnelles, comme le bon islam non extrémiste contrôlé par les autorités, et le bon judaïsme, essentiellement hassidique, qui soutient entièrement Vladimir Poutine et qui prône les valeurs qui sont pratiquement contraires aux nôtres. Donc c'est la négation ou la limitation de la liberté individuelle, c'est la négation de la liberté sexuelle et le choix de leur orientation sexuelle, etc. Donc ce qui se produit, c'est que ce retour de la Russie vers les valeurs traditionnelles et extrêmement réactionnaires coïncide avec un mouvement populiste dans plusieurs pays européens et même aux États-Unis, en témoigne la candidature de Trump. Donc, Poutine, en quelque sorte, a le vent en poupe parce que il compte peut-être que les populistes vont arriver au pouvoir tôt ou tard dans plusieurs pays européens, et avec ces leaders-là, comme avec Marine Le Pen et compagnie, mais aussi Viktor Orban, et aussi dans plusieurs autres pays européens, on voit ces tendances se renforcer. Donc d'ici quelques années, peut-être le paysage européen sera changé. La Russie s'en rapprochera très volontiers. La Russie soutient activement les partis d'extrême droite et les partis populistes anti-européennes de l'Europe. Ça explique aussi pourquoi la Russie soutient plusieurs pays du tiers-monde avec des régimes franchement dictatoriaux, dont le régime de Bachar el-Assad, parce que c'est une proximité. À part toutes les considérations géopolitiques, à part le besoin du maintien des bases militaires en Syrie, il y a aussi une proximité de dictateur à dictateur entre Vladimir Poutine et Bachar el-Assad.
Alors pour résumer vos propos, Galia Kloman, Vladimir Poutine vote Trump, Le Pen, Orban et Bachar el-Assad. Arnaud Dubien, on ne peut que constater que la Russie a du mal à développer une image positive, en tout cas pour les Occidentaux.
Oui, la Russie a du mal, ce n'est pas nouveau. Alors on peut chercher plusieurs explications à ça. Il y a sans doute le fait que la situation en Russie et l'image qu'ils projettent mais en soi pas très attirante pour les Occidentaux. Il y a peut-être aussi, il faut bien admettre, même si c'est pas très agréable à dire, certains biais a priori en Occident vis-à-vis de la Russie, en particulier vis-à-vis de Poutine, Ce n'est pas nouveau, il y a toute une longue historiographie française et autres. Finalement, on considère la Russie comme un pays barbare, bon, justice, autoritaire, tout ça n'est pas nouveau. Mais, encore une fois, cette image négative, elle ne concerne pas forcément les autres grands ensembles du monde. Et le discours russe sur la souveraineté, sur les valeurs traditionnelles, passe plutôt bien hors Occident. Et la remise en cause de l'ordre occidental, sans surprise, passe plutôt bien chez les BRICS et au-delà. Donc aujourd'hui, effectivement, l'image de la Russie est mauvaise. Peut-être aussi, je pense, qu'elle n'en a plus grand-chose à faire. En tout cas, elle estime que quoi qu'elle fasse, le rendu et le ressenti en Occident sera négatif. Et dans ces conditions, pourquoi faire du soft power ? Mais il est vrai aussi que ce ressenti négatif n'est pas forcément vrai au-delà de l'Occident. En d'autres termes, l'image de la Russie, son discours, passe mieux hors Occident qu'en Occident.
Alors on pourrait dire évidemment un mot de l'inauguration ratée du Centre culturel russe à Paris, mais c'est toute une histoire presque à part, mais enfin en tout cas c'est très révélateur de ce que l'on vient de dire à l'instant. Un mot Arnaud Dubien sur l'avenir économique de la Russie. Le pays reste une économie de rente, hein, et en 16 ans depuis que Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir, ça n'a pas vraiment changé.
Vous avez raison quand vous dites que la structure économique de la Russie n'a pas évolué. En tout cas, la diversification que Poutine avait appelée de ses voeux ne s'est pas produite. En même temps, le niveau de richesse, lui, a beaucoup évolué. La Russie, aujourd'hui, a un PIB par habitant de 24 000 dollars en parité de pouvoir d'achat, ce qui n'est pas négligeable. C'est bien supérieur, par exemple, à la Chine voisine.
Ça a chuté quand même avec la baisse du rouble. Ça s'est effondré avec la baisse du rouble.
Oui, mais
qui a perdu 40% de sa valeur en 2015.
Si vous comptez en nominal ou en parité de pouvoir d'achat, et en réalité en parité de pouvoir d'achat, par exemple, l'économie russe est devant l'économie française. Bon. Donc le défi, effectivement, c'est la diversification, c'est sortir de l'économie de rente. Je pense que les dirigeants en sont bien conscients, mais il y a évidemment une solution de facilité. Il est vrai qu'au cours de la première décennie des années 2000, la Russie a privilégier la solution de facilité, qui était de recueillir cette rente plutôt que de réformer. Aujourd'hui, la Russie n'a plus vraiment le choix et elle devra, si elle veut, maintenir ses ambitions, maintenir le niveau de vie de la population, elle n'aura d'autre choix que de faire autre chose. Je pense que dans les moyens, la Russie a beaucoup de talent, il y a aussi beaucoup d'inertie, mais en tout cas, la prise de conscience est là, le potentiel est là, et la nécessité est là.
Et j'ajouterais depuis très très longtemps. Gaëlle Ackermann, il y a eu des élections législatives en septembre dernier. Elles sont passées presque inaperçues parce que, sans surprise, Vladimir Poutine, en tout cas son parti Russie Unie, a triomphé. Il y aura des élections présidentielles en 2018. Vladimir Poutine peut être au pouvoir jusqu'en 2024, ce qui fait de lui vraiment pratiquement un dirigeant africain, hein, pour la longueur de vie. Il n'y a plus d'opposition en Russie. Il y avait eu des manifestations en 2011 lors des dernières élections, calme plat au lendemain de ces élections, malgré les fraudes qui sont réelles. Quelle est la situation des Russes ? Ils ont peur, ils sont abattus, ils sont découragés ?
Je crois qu'il y a plusieurs facteurs. D'une part, les manifestations de 2011-2012 ont été finalement durement réprimées parce qu'il y avait des procès. Après la manifestation Place Bolotnaya, donc en mai 2012, d'une part, il y avait l'assassinat de Boris Nemtsov.
Qui était le leader de l'opposition.
Qui a été en tout cas l'un des leaders de l'opposition, probablement la figure politique la plus forte de l'opposition. Il y a aussi des lois extrêmement répressives contre les rassemblements. Il y a le contrôle de plus en plus dur et strict d'Internet. Donc, il y a aussi des accusations très faciles parce que n'importe quelle critique peut être interprétée, si l'on veut bien, comme une sorte de trahison de la présence de la cinquième colonne, etc., etc. La montée du patriotisme a fait qu'il est très difficile de s'opposer à quoi que ce soit parce que tout est considéré comme antipatriotique.
Enfin, Parmentier, c'est vous qui allez avoir le mot de la fin. Marie Mandras, qui est une politologue qui suit la Russie de près, a écrit un long papier dans lequel elle explique que la Russie de Vladimir Poutine devrait connaître un déclin inexorable. Vous partagez cette opinion ?
La Russie est un pays qui est en, un peu comme la France, en déclin depuis tellement longtemps qu'il devrait depuis longtemps ne plus rien rester. La fameuse histoire du la France a tellement fini de rayonner qu'à un moment voilà, il restera moi je pense que tout dépend du point de départ. Quand on parle d'un déclin, est-ce que c'est le déclin par rapport à l'Union soviétique? Sans doute, mais c'est plus le même pays. Est-ce que la Russie est moins à même d'avoir des relations avec l'Europe, les États-Unis qu'en 91? Sans doute, et les torts sont partagés. Est-ce que la Russie est en meilleur état que 99? Très vraisemblablement, et c'est aussi pour ça que derrière une volonté certainement d'un certain nombre de Russes, les Russes ne sont pas non plus unanimement derrière Vladimir Poutine. Certes, il a de très hauts sondages dont on peut toujours douter de la pertinence et l'exactitude, mais il faut observer quand même que sur les dernières élections, il a sans doute remporté des taux très importants législatifs, mais il y a une participation qui était quand même sensiblement plus faible. Ce qui veut bien dire que la guerre, effectivement, entre le téléviseur et le réfrigérateur, tel qu'on l'appelle, c'est-à-dire l'appel patriotique, la volonté, etc., répond à une certaine partie de l'attente des populations, mais que notre parti, et parfois les mêmes personnes même, sont assez divisées par rapport à ça.
Alors un mot quand même sur cette guerre du frigo et de la télé. L'idée c'est qu'à la télé, victoire, triomphe, et puis lorsque le russe moyen se lève pour aller vers son frigo en quittant sa télé, et le frigo est un peu vide. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe, réalisation Guillaume Munier. Sur la page de l'émission via RFI.fr, des infos sur nos invités. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site RFI.fr et via les applis mobiles et gratuites de RFI. On reste bien sûr en contact via Facebook et Twitter. Daniel Esquel, où que vous soyez, à Moscou, Valdaï, à Paris ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.